Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler de mes travaux de recherche en cours, donc dans le cadre de ma thèse. Je travaille sur les effets inégalitaires qui sont induits par des politiques de gestion du risque d'inondation. Et je travaille sur deux terrains d'études qui bordent la Loire, dans la métropole de Tours, un à La Riche et un autre à Blois. Et donc je suis en aménagement et urbanisme à l'Université de Tours et je commence ma deuxième année de thèse. Donc pour introduire un petit peu le sujet, ce qu'on peut dire sur les politiques de gestion du risque d'inondation, c'est que on est dans un changement de paradigme et que désormais elles visent plutôt à favoriser la cohabitation avec le risque et essayer de faire la part de l'eau sur le territoire. Donc on a une rhétorique de l'adaptation au risque qui va s'inscrire dans les politiques et les outils d'urbanisme et qui peuvent aussi servir à la production de projets de territoire qui vont être écologisés en intégrant cette question du risque entre guillemets. Mais, c'est un peu le point de départ de ce travail, c'est de se dire que ces politiques de gestion du risque d'inondation, et qui peuvent du coup être intégrées à des projets de durabilité urbaine, ils vont avoir des effets socio-spatiaux qui vont être différenciés. Et des effets socio-spatiaux qui vont être en fait qui vont être négociés. On va le voir là dans le cadre du projet des îles Noires que je vais vous montrer. C'est un projet qui est discuté depuis une vingtaine d'années, donc qui connaît aussi des moutures et des régulations qui vont être différentes selon les contextes. Donc cette communication, elle interroge la façon dont les projets de territoire se construisent ici à La Riche, comment ils se légitiment au fil des années progressivement, et du coup comment différentes formes de régulation vont pouvoir se succéder sur un espace au fil des changements de statut du territoire, et comment ça va affecter, bouleverser la trajectoire des habitants et des usagers qui vivent ou qui vivront l'espace. Du coup, en essayant un petit peu de visibiliser les effets matériels que ces politiques peuvent avoir. Donc pour ça, grossièrement, je m'appuie un peu sur deux champs. La question des inégalités environnementales, notamment les travaux qui ont été faits dans le cadre de la justice environnementale, qui introduit la notion d'environnement vécu et qui va considérer à la fois les schémas de surexposition au risque des personnes les plus vulnérables, donc des inégalités par le bas, entre guillemets. La question aussi des différentes capacités et des possibilités de jouir, d'avoir accès à des aménités environnementales, à des environnements qui vont être requalifiés, donc on peut parler d'inégalité par le haut. Et deuxième volet, la question de la construction des politiques d'aménagement, de la construction des projets urbains, avec leurs effets socio-spatiaux et aussi ce que les outils d'action publique peuvent produire là-dedans, donc les différents régimes réglementaires par exemple, comme ceux qui circulent autour du risque d'inondation. Donc voilà, une séparation entre deux champs, mais une approche plutôt relationnelle entre les deux, notamment en concevant que les usagers et les projets de territoire, il y a une influence mutuelle qui se joue, sans laisser de côté évidemment le fait que les acteurs ils vont avoir des prises équivalentes, sans laisser de côté l'idée qu'il y a des rapports de force qui se jouent. Donc en termes de méthode, je travaille surtout par des entretiens semi-directifs avec les habitants, les usagers et les porteurs de projets et les acteurs institutionnels d'un autre côté, par une analyse des outils d'action publique, donc je vous parlais des différents régimes réglementaires par exemple. Je fais un peu d'observation participante aussi, notamment chez des porteurs de projets qui s'installent sur le territoire. Et j'ai aussi réalisé une revue de presse. J'ai lu La Nouvelle République depuis l'émergence du projet, donc dans les années 2000, pour essayer de comprendre comment c'est évoqué dans la presse locale, sans évidemment laisser de côté la question du traitement du pouvoir local, par la presse quotidienne régionale et la surreprésentation des acteurs politiques auxquels elle peut mener ce qu'ont pu montrer des travaux en sociologie des médias. Et je commence un peu d'analyse d'imagerie spatiale, mais c'est très très embryonnaire, du coup je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et dans tous les cas, enfin voilà, là on est vraiment sur une démarche de terrain qui commence. Donc là je vais vous présenter des premières hypothèses à gros traits que je suis en train d'affiner parce que le travail de terrain se déroule en ce moment. Donc pour présenter un peu les îles noires, la variété des modes d'habité un peu qui peuvent s'y succéder sans être exhaustifs, donc on parle de ce territoire-là qui est situé entre le lit mineur de la Loire et donc qui est séparé du reste de la ville par la digue. Hein. En fait, là on a là on est sur le périmètre du projet de requalification qui est aujourd'hui en vigueur, mais la limite qui est tracée, c'est finalement la limite de la digue, donc au sud et donc à l'est, la limite de la rocade aussi, qui sont des vraies frontières spatiales sur le territoire. Donc autrefois, c'était une zone de maraîchage assez importante, une spécialisation qui date du 19e siècle, du fait de la qualité des sols. Et de manière générale, La Riche était une commune très maraîchère. On parle de 200 foyers maraîchers en 1935. Et donc voilà, un fort rôle nourricier qui est associé aux îles Noires, et aussi rapidement des fonctions d'habitation qui se développent. Sur le territoire, aujourd'hui, il y a 11 habitations qui ont un statut légal, c'est-à-dire qu'elles ont été construites avant 1943 et la loi sur les permis de construire. Et on retrouve parmi les premières familles plusieurs qui viennent de migrer en France. J'ai notamment rencontré un enquêté qu'on va appeler François et qui me disait le premier habitant, c'était Monsieur M, qui est arrivé en 1933. Il était espagnol. Il y a mon grand-père qui était espagnol aussi. Et on a eu Monsieur M qui était tchèque. Donc on peut dire que les premiers habitants des îles Noires, en fait, c'était des étrangers. Donc en partant de là, on peut faire l'hypothèse un peu d'un historique d'ancrage populaire sur ces territoires qui va avoir une fonction d'absorption de populations précarisées, donc du fait finalement de la situation périphérique de l'espace, du fait qu'il y a du foncier qui est disponible, qui est peu coûteux, et qui est peu coûteux notamment du fait de l'inondabilité du site. Ça, c'est une vraie hypothèse que je vais essayer de creuser. Du coup, voilà, qui pourrait marquer déjà une surexposition initiale de personnes vulnérables au risque d'inondation. Donc avec après la Seconde Guerre mondiale, on a une ville de La Riche qui s'urbanise beaucoup. Et donc la ville va souffrir d'une déprise agricole. Il y a le mouvement de modernisation agricole aussi qui rend peu intéressant des terrains qui étaient limités en termes de foncier disponible. On a des terres vacantes qui vont être remplacées essentiellement par des jardins ouvriers. Des jardins ouvriers avec des cabanes aussi qui se développent, qui peuvent progressivement faire office de résidence secondaire l'été où la population gonfle. Et progressivement, il semble que certains jardins et des cabanes aient été abandonnés aussi, et des populations qui vont s'inscrire dans différentes formes de marginalité s'y implantent aussi. On voit aussi l'implantation de voyageurs sédentaires ou en voie de sédentarisation sur des terrains familiaux ou par des occupations spontanées du territoire. Donc voilà, un tableau dressé à grand trait, mais voilà, les sources coïncident pour dire voilà, il y a une origine modeste qui fait un espèce de fil rouge sur les populations installées aux îles Noires de manière générale. C'est difficile de dire combien de personnes y vivent parce que ça dépend des périodes. Et du coup, comme je vous disais, tous n'ont pas un statut légal. Mais en 2016, il y a la ville qui a fait un travail de recensement un petit peu et qui évalue le nombre d'habitants permanents entre 60 et 100 personnes, auxquels il faut rajouter des gens qui ne sont pas forcément comptabilisés. On a notamment des Roms migrants bulgares qui avaient eu domicile sur le territoire à partir de la fin des années 2000, et il y avait 80 personnes en plus à peu près à cette période. Donc voilà, un ancrage de certaines fonctions avant que des politiques publiques s'emparent de ce que cet espace pourrait redevenir en quelque sorte. Donc on a voilà les îles Noires qui font office de zones tampons, de zones réceptacles d'usage réprouvés ou illégaux, avec quelque part un accord tacite des autorités en place aussi, donc pendant de très nombreuses années. On a une digue qui fait office de protection des crues pour la ville, mais qui fait office aussi de séparation de cet espace par rapport au reste de l'espace urbain. Et du coup, voilà, que sur les îles Noires, on voit souvent des feux sauvages, des dépôts sauvages. Il y a aussi un peu de prostitution, par exemple. qui a pu se développer sur le site. Donc voilà, une concentration d'usages et de fonctions qu'on n'a pas forcément envie de voir dans les centres-villes, et c'est ce qui est admis par des responsables politiques locaux qui étaient interrogés dans le cadre d'un autre travail de recherche, où il y en avait un qui disait « Les îles Noires, à tout moment où que l'on se place, ont une fonction par rapport à la ville, qui est proche, et précisément, ils ont actuellement, et depuis longtemps, la fonction de recueillir des gens qui n'ont plus leur place ailleurs, et donc qui s'installent, et qui en quelque sorte créent un équilibre. » Et bon, progressivement, on a un regard qui va changer sur cet espace. Au milieu des années 2000, Tour Plus, donc l'ancêtre de la métropole, lance un grand projet de ville et conduit une étude dans ce cadre sur les îles Noires. Et la communauté d'agglomération commence à porter un projet d'aménagement qui est déclaré d'intérêt communautaire au titre de la politique de la ville. Et une première zone d'aménagement différé est mise en place en 2003, et l'agglomération commence à récupérer des bouts de terrain à cette occasion-là. Avec l'idée d'arrêter l'arrivée de nouveaux habitants sur le site, de penser des usages futurs et d'essayer d'aménager l'espace pour favoriser l'implantation de ces usages futurs et de construire une mémoire du risque d'inondation aussi. Donc dès 2003, avec ces objectifs, on voit déjà qu'il y a une politique qui est mise en place par l'agglomération qui dépasse la seule question de la gestion de l'aléa d'inondation. On est déjà dans de résorption de l'habitat précaire. On est déjà dans la construction d'un projet aussi qui anticipe l'après et qui essaye d'effacer un petit peu la trace de cet habitat qui est connoté négativement dans l'espace. L'ancien maire de La Riche, il avait appelé cet espace bidonville, et ça avait fait bondir un certain nombre d'habitants qui avaient commencé à s'organiser justement pour essayer de visibiliser un petit peu leur existence et de réhabiliter quelque part ces vécus sur l'espace. Donc là, je parle de 2003, on est aujourd'hui en 2020, il y a un autre jalon important qui est 2016, où en quelque sorte, il y a un deuxième moment où le projet devient très important dans l'espace public, dans le débat public. Il y a une deuxième ZAD qui est mise en place. Et le maire de l'époque, il évoque cette fois la portée métropolitaine du projet. Il veut le rendre à nouveau accessible aux habitants, c'est la rhétorique qui est mise en place. Il espère qu'il y a un tramway qui va s'implanter à proximité, dont le terminus, on est sur les négociations là sur la deuxième ligne de tram de Tours, et le projet bon, qui peut être un peu enterré aujourd'hui, mais c'était d'aller dans le terminus pour aller jusqu'aux portes des îles Noires. Et donc voilà, donc dans cette idée aussi d'un droit au fleuve. Il y a un autre membre des services techniques qui parle de « nous voulons redonner un accès à la Loire aux Larichois » comme si cet accès était aujourd'hui empêché. Donc un site qui doit permettre une fonction de loisir, une fonction contemplative pour le territoire, mais aussi une fonction agricole, et in fine un site qui peut permettre de faire éclore une nouvelle identité, qui peut permettre d'irriguer des réflexions sur le devenir et sur le futur de la Riche Ouest, qui est historiquement séparé de la Riche Est, qui profite énormément du dynamisme de Tours, quand sur l'espace c'est quelque chose qui est moins vrai, il y a un sentiment d'abandon qui est exprimé par beaucoup d'habitants. Donc voilà, là c'est une opportunité. On voit que dans le projet d'aménagement et de développement durable de la Riche, par exemple, il y a une séparation qui est faite entre l'Est et l'Ouest en 2016, et la Riche Ouest est désignée comme la ville nature. Donc on essaye de transformer le caractère donc historiquement agricole du site et son inondabilité en une nouvelle ressource du coup pour valoriser des fonctions nourricières et paysagères, et aussi de montrer qu'on s'inscrit dans un héritage, hein, dans une continuité historique, mais aussi sélective, hein, parce que ça délégitime un certain nombre de fonctions qui ont pu s'emparer de ces espaces entre-temps. Donc sur le foncier récupéré, sur une partie du foncier récupéré, la métropole fait signer des beaux ruraux avec des clauses à haute valeur environnementale à des maraîchers. Donc on a deux maraîchers qui se sont installés aujourd'hui, dont un qui a lancé un espace de guinguette, donc une volonté d'en faire un lieu culturel aussi. Il y a aussi un rucher, un potager qui se mettent en place dans une forme associative. Donc voilà, un effet vitrine autour des îles Noires. Donc une politique qui vise à permettre la mutation radicale du site, hein, le faire passer d'une marge urbaine répulsive à un parc d'agglomération attractif, comme le dit un géographe Sylvain Rode, Et donc, voilà, on a des politiques qui sont motivées par des enjeux d'anticipation des responsabilités juridiques qui pourraient jouer si cru il y avait un jour. Et par des enjeux de résorption de l'habitat précaire, mais qui sont aussi instrumentalisés par les élus locaux pour devenir un facteur d'intégration d'une marge urbaine. Donc, au-delà d'un peu de cette logique par les outils réglementaires et un peu discursive, ces installations, elles marquent des transformations qui sont déjà notables dans l'espace. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un projet qui s'opère plutôt à basse intensité depuis une vingtaine d'années. Il y avait une volonté initiale d'y opérer plutôt un projet d'ensemble, hein, qui était marqué au début des années 2000, mais qui a été progressivement abandonné par rapport à des contraintes politiques, budgétaires, sur lesquelles on pourrait revenir pendant la discussion si vous le souhaitez. Maintenant, la logique, c'est plutôt de mettre en place des projets d'aménagement au fil de l'eau, selon les opportunités foncières notamment. Donc, je vous parlais des maraîchers qui sont installés. On a un lac de carrière aussi qui est rétrocédé à l'agglomération et qui va être réhabilité pour en faire une base de loisirs. On a aussi des opérations d'embellissement sur le site qui sont réalisées, notamment à l'entrée du site. On a, là, vous le voyez sur la deuxième photo, des panneaux routiers qui ont été ajoutés, des panneaux routiers espace zone de rencontre, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, donc qui marquent aussi la volonté de reprendre un peu le contrôle sur un espace qui a longtemps été marqué du coup par cette informalité, une informalité qui était acceptée hein, par les autorités locales, je le rappelle. Ce qu'on peut dire aussi sur la transformation des usages du territoire, c'est que les nouveaux porteurs de projets, ils endossent aussi ce rôle de transformation socio-spatiale du territoire. Et du coup, ils s'inscrivent dans l'agenda métropolitain des acteurs politiques, des acteurs politiques locaux. Ils évoquent tous le côté malfamé avant leur arrivée du site. Et du coup, ils participent à un certain renouvellement. Ils se mettent aussi en réseau avec des dynamiques de solidarité qui se construisent entre eux, qui sont assez intéressantes à observer. Par exemple, j'étais fait un peu d'observation participante au sein d'un projet agricole permacole qui s'est implanté. Et on a des bénévoles qui viennent de toute la métropole, qui sont assez jeunes, qui sont insérés socialement et qui sont des néo-usagers, qui ne connaissaient pas les îles Noires avant, qui peuvent en être assez éloignés spatialement. Et du coup, on est sur des réseaux qui se construisent non pas seulement sur la base de la proximité, mais plutôt sur la base d'un corpus de valeurs partagées qui est quelque chose d'assez nouveau aux îles Noires. Il faut que je conclue. Oh, mon Dieu. Donc, tout ne va pas être racheté. Hein. Le statut légal d'un certain nombre de maisons semble faire qu'ils sont assez tranquilles, même si la ZAD a été mise en place. C'est en tout cas le discours qui est diffusé par les autorités locales aujourd'hui. Pour l'instant, l'action publique, elle s'est concentrée surtout sur l'évacuation, enfin l'expulsion en fait, hein, de personnes en situation de grande vulnérabilité, comme les Roms migrants de Bulgarie qui ont été expulsés en 2019 au nom de l'habitat insalubre cette fois. Mais la question, c'est qu'est-ce qui va advenir des personnes qui sont dans une situation intermédiaire, qui sont dans des habitations qui sont qualifiées d'irrégulières hein, par les pouvoirs publics et qui peuvent s'inscrire dans des formes de marginalité qui ont un côté choisi aussi, qui ne sont pas seulement subies. Et du coup, voilà, il y a une vraie indétermination de leur futur qui est assez forte et qui peut être mise en parallèle justement des îles Noires qui s'inscrivent dans un futur soutenable porté par la métropole. Et du coup, mettre les deux en relation, c'est assez intéressant. Donc là, j'ai mis une citation de François dont je vous parlais tout à l'heure, qui montre bien que voilà, il y a un fort attachement au lieu et que il y a un affect du fait de la durée de l'ancrage aussi sur le territoire. Voilà, donc j'ai explosé le temps, donc je m'arrête là.